Je voudrais donc donner la parole tout de suite à Catherine Misselhorn, professeure à l'université de Stuttgart. Catherine qui va nous parler des idées métaphysiques de Musil entre philosophie traditionnelle, naturalisme et essayisme.
D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici. Jacques Bouverès m'a toujours impressionnée par sa précision philosophique et par sa sensibilité aux aspects littéraires des textes.
Il faut que vous parliez plus près du micro.
D'accord, merci. C'est mieux comme ça?
Merci. Merci.
Donc, il m'a toujours impressionnée par sa précision philosophique et par sa sensibilité aux aspects littéraires des textes, philosophiques ou non. Et je suis très heureuse de tout ce que j'ai pu apprendre de lui à ce double égard, à partir de nos discussions au cours du semestre que j'ai passé au Collège de France, avec une bourse Theodor Lünen en 2007-2008. Il ne se contente pas de saisir ces aspects de manière théorique. Il incorpore leur combinaison d'une manière performative dans sa pensée et ses écrits philosophiques. Ceci est visible en réduction à travers les titres intrigants de beaucoup de ses ouvrages, titres à la fois adéquats à leur contenu et finement formulés d'un point de vue littéraire. Wittgenstein, La rime et la raison, Science, éthique et esthétique de 1973, met ceci en lumière d'une belle manière. Ce titre exprime le lien étroit entre raisonnement et forme littéraire, non seulement dans son contenu propositionnel, mais par le choix d'une belle allitération. Et il y a d'autres titres magnifiques comme Le philosophe chez les autophages de 1984, Le pays des impossibles, Wittgenstein, les mathématiques et le monde réel de 1998, et bien sûr ses livres sur Robert Musil, L'homme probable, Robert Musil, le hasard, la moyenne et l'escargot de l'histoire de 1993, ou La voix de l'âme et les chemins d'esprit, 10 études sur Robert Musil de 2001. Mais outre cet aspect un peu superficiel que je viens de décrire, la philosophie et la littérature sont mêlées dans la pensée de Bouverès d'une manière bien plus profonde. Tandis que sa rigueur philosophique et sa précision argumentative l'ont toujours empêché de sombrer dans l'évasif ou mieux, et dans le bavardage ou pire, la littérature l'a protégé contre la suffisance de nombreux philosophes qui considère avec mépris tout ce qui et quiconque ne se plie pas aux strictes normes philosophiques de raisonnement. Jacques Bouverès est toujours plein de l'ironie, de l'humeur et de la modestie philosophique que la littérature doit lui avoir enseignée. Bien que sa position et sa reconnaissance internationale le justifieraient, il ne se conduit jamais comme un gros philosophe, une expression calquée sur celle de Musil qui parle du Großschriftsteller, le grand écrivain. De manière générale, l'influence de la pensée de Musil sur celle de Jacques Bouverès peut difficilement être sous-estimée. C'est donc de Musil que je parlerai dans ma présentation en l'honneur de Jacques Bouverès aujourd'hui, et je le remercie de me permettre de participer à sa pensée philosophique et en même temps littéraire. Donc, c'est ma présentation, les idées métaphilosophiques de Musil entre le naturalisme philosophique et la philosophie comme littérature. En ouverture, permettez-moi cette citation tirée d'un essai de Musil, L'allemand comme symptôme. En réalité, n'avoir pas de philosophie est la philosophie qui convient à notre temps. Fin de citation. Le roman de Musil, L'homme sans qualité, est considéré par de nombreux philosophes comme de la littérature philosophique très intelligente. Il contient nombre d'idées intéressantes sur diverses questions de métaphysique, de philosophie de la connaissance, de philosophie de l'esprit et, plus encore, d'éthique. Toutefois, comme j'entends le montrer dans cette conférence, les philosophes ont de bonnes raisons d'être embarrassés par cette œuvre et par son auteur. Elle lance un véritable défi à la philosophie comme science, du moins selon la conception traditionnelle. Musil soutient que la manière correcte de traiter les problèmes philosophiques n'est pas celle de la philosophie académique traditionnelle, mais une manière de penser et d'écrire qui, quoique nourrie de la tradition philosophique, est clairement de nature littéraire. Le projet de Musil, par conséquent, se dresse en rival de la philosophie académique. Dans cette conférence, je vais examiner comment Musil développe cette idée métaphilosophique dans ses essais et dans L'homme sans qualité. Le terme métaphilosophique est sujet à controverse. Je l'emploie ici comme le terme approprié pour désigner toute réflexion sur la nature et sur les buts de la philosophie. Dans ma première partie, je décrirai l'espace des idées métaphilosophiques comme se déployant entre les trois sommets d'un triangle. La conception traditionnelle de la philosophie, le naturalisme philosophique et la conception selon laquelle la philosophie est une sorte de genre littéraire, en abrégé la philosophie comme littérature. Dans ma deuxième partie, je montrerai que l'approche musilienne occupe, dans l'espace métaphilosophique ainsi conçu, une position particulière qui combine des éléments de philosophie comme littérature et de naturalisme philosophique de manière tout à fait singulière. Dans ma troisième partie, j'étudierai de près les stratégies par lesquelles Musil soutient cette position dans son œuvre littéraire. Première partie, les positions dans l'espace métaphilosophique. Quand on s'interroge sur la nature de la philosophie, on peut s'intéresser à son statut institutionnel, à son histoire, au canon des textes philosophiques, à son domaine d'étude et à sa méthodologie. Adopter l'approche institutionnelle revient à présupposer que la philosophie est tout ce qui est enseigné et étudié dans les départements universitaires de philosophie. Adopter les approches historiques ou canoniques, c'est définir la philosophie par une tradition ou par un canon de texte. Beaucoup de philosophes, toutefois, ne seront pas satisfaits d'une caractérisation purement institutionnelle ou historique ou canonique de leur discipline. Et pour une bonne raison, c'est que les départements de philosophie, les traditions historiques et le canon de textes ont évolué selon des modalités historiquement contingentes. Par conséquent, les philosophes en général, et peut-être les philosophies analytiques en particulier, ont tendance de préférer caractériser la philosophie en se référant à son objet d'étude propre et à sa méthodologie. Selon une tradition influente en Occident, la philosophie traite des vérités abstraites, générales et nécessaires qui caractérisent le monde de la manière la plus fondamentale. Sa méthodologie est considérée comme a priori, c'est-à-dire indépendante de l'expérience. Par conséquent, on peut pratiquer la philosophie depuis son fauteuil. La plupart des défenseurs de cette conception s'accordent à dire que la philosophie traite au moins des vérités analytiques, conceptuelles ou linguistiques. Et parallèlement, la méthode propre à la philosophie est, au moins en partie, celle de l'analyse linguistique ou conceptionnelle. À partir de là, des divergences apparaissent sur la question de savoir si l'enquête philosophique se limite à seule analyse linguistique ou conceptuelle, ou si elle exige aussi autre chose. Comme on le sait, Kant et ses successeurs ont soutenu que la partie la plus importante de la philosophie n'est pas l'investigation des vérités analytiques, mais bien plutôt l'enquête sur ce qu'il a appelé les vérités synthétiques a priori, c'est-à-dire les vérités strictement générales et nécessaires qui échappent au domaine de la science empirique sans être pour autant purement analytiques. Cela ne signifie pas que la philosophie serait quelque chose extérieur à la science, mais au contraire, qu'elle revendique un statut scientifique pour elle-même. Pour Kant, cela implique qu'elle a l'unité d'un système. Citation, l'unité systématique est ce qui convertit la connaissance vulgaire en science, c'est-à-dire ce qui coordonne un système en simple agrégat de ses connaissances. Fin de citation. L'unité systématique exige la complétude, laquelle est assurée par une approche méthodologique qui, à partir de principes de base, dérive toutes les propositions du système d'une manière absolument certaine. On a soutenu que ceci est analogue à l'exigence moderne selon laquelle un système formel n'est logiquement et sémantiquement complet que s'il tend à la complétude épistémique, qui est une exigence encore plus forte. En tout cas, selon l'une et l'autre conception, celle qui restreint l'enquête philosophique aux vérités analytiques et selon laquelle elle inclut des vérités synthétiques a priori, les mathématiques sont la discipline la plus proche de la philosophie. Kant soutient que les mathématiques sont, avec la philosophie, le seul domaine d'enquête où l'on trouve des vérités synthétiques a priori. De leur côté, les défenseurs de l'idée que la philosophie se limite aux vérités analytiques pensent souvent qu'il en va de même pour les mathématiques. Par conséquent, il n'est pas accidentel que Ulrich, le héros de l'homme sans qualité, soit un mathématicien professionnel et que, comme nous le verrons plus loin, les mathématiques jouent un rôle clé dans cet ouvrage. Tournons-nous maintenant vers les deux alternatives à la conception traditionnelle de la philosophie que nous avons considérées jusqu'ici, la philosophie comme littérature et le naturalisme philosophique. La philosophie comme littérature conçoit la philosophie comme un genre littéraire, mais cette conception semble difficilement compatible avec l'idée que l'objet de la philosophie, ce sont les vérités abstraites générales et nécessaires. Et elle semble incompatible également avec l'adoption d'une méthode qui satisferait des normes strictement scientifiques. Si la connaissance scientifique est la mesure de toute chose, cela conduit facilement à une conception sceptique concernant la connaissance philosophique. Par conséquent, les défenseurs de la philosophie comme littérature en viennent souvent à nier que la philosophie soit concernée de quelque manière que ce soit par la connaissance et ils ont conclu que la nature de la philosophie est déterminée par la tradition historique et par un canon de textes. Comme l'explique Richard Rorty, citation, « Il vaut mieux voir la philosophie comme un genre d'écriture. Comme tout genre littéraire, elle n'est pas caractérisée par sa forme ni par sa manière, mais par une tradition, un roman familial qui inclut, par exemple, le père Parménide, le bon vieil oncle Kant et le mauvais frère Derrida. » Fin de citation. Le but de la philosophie telle que Rorty la conçoit n'est pas de fournir des connaissances, mais d'édifier le lecteur. C'est un projet qui n'est pas épistémologique, mais politique. Les œuvres philosophiques doivent améliorer le monde en y apportant davantage de solidarité et d'empathie et en renforçant les valeurs libérales comme le font les bons romans. Ce ne peut être fait cependant au moyen d'arguments philosophiques, mais d'une façon qui ressemble davantage à la publicité ou aux campagnes politiques. L'alternative radicale à cette conception de la philosophie comme un genre littéraire, c'est celle qui la rapproche de la science. C'est la conception du naturalisme philosophique. Le naturalisme philosophique soutient que la philosophie n'a pas de domaine d'étude ni de méthode qui soit par principe différent de ceux qui sont en vigueur dans les sciences. Il se présente sous deux variantes, comme une thèse ontologique et comme une thèse épistémologique. Le naturalisme ontologique soutient que les entités scientifiquement respectables sont les seules qui existent. Quelles entités ? Cela dépend de la manière dont on comprend la respectabilité scientifique et de l'éventail des sciences admises. La version du naturalisme la plus restrictive est le physicalisme, qui ne tient pour seule sorte de qui ne tient pour respectable que les seules entités physiques. Mais le physicalisme n'est pas la seule sorte de naturalisme ontologique. On peut aussi reconnaître que d'autres sciences, comme la chimie ou la biologie, décrivent d'authentiques objets au-dessus du nouveau fondamental. Le naturalisme épistémologique estime que les seules méthodes épistémiques légitimes sont les méthodes scientifiques respectables. Certes, les différentes sciences emploient des méthodes différentes, mais à un niveau très général, les méthodes scientifiquement respectables incluent la formulation d'hypothèses théoriques et de tester les prédictions par les moyens de l'observation systématique et de l'expérimentation contrôlée. Les thèses du naturalisme peuvent être davantage spécifiées en distinguant ces versions fortes, faibles et modérées. Le naturalisme ontologique fort dit que les entités ne sont respectables que si elles figurent dans les sciences, que ce soit comme entité théorique ou comme entité observable. La thèse du naturalisme épistémologique fort est que, comme on l'a expliqué à l'instant, seules les méthodes scientifiques sont respectables. À l'inverse, les méthodes a priori auxquelles la philosophie traditionnelle a recours ne sont pas respectables. Par conséquent, les naturalistes épistémologiques forts rejettent également l'idée que la philosophie traiterait des vérités analytiques. Toutefois, l'analyse conceptuelle reste un dernier ressort pour la philosophie a priori. Pour bloquer cet échappatoire, Quine a même attaqué la distinction analytique-synthétique en tant que telle dans le cadre de sa défense d'un naturalisme strict. Il est clair que les deux types de naturalisme fort sont incompatibles avec la conception traditionnelle telle que je l'ai présentée. Dans sa version faible, le naturalisme ontologique demande seulement que les entités scientifiquement respectables ne soient pas en contradiction avec les sciences. Le naturalisme épistémologique faible soutient, lui, que des méthodes scientifiquement respectables ne doivent pas conduire à résultats qui contredisent les découvertes des sciences. Les deux types de naturalisme faible ne sont pas compatibles avec la conception traditionnelle de la philosophie. Elles autorisent en principe l'analyse conceptuelle et même la connaissance synthétique a priori en philosophie, pourvu que leurs résultats ne contredisent pas ceux des sciences. Donc il n'y a pas d'incompatibilité. Selon le naturalisme ontologique modéré, des entités sont respectables si et seulement si, non seulement elles ne contredisent pas purement et simplement les sciences, mais peuvent en outre être effectivement accordées avec elles. Parallèlement, le naturalisme épistémologique modéré demande non seulement que l'existence de certaines sortes d'entités non seulement ne soit pas en contradiction avec les connaissances scientifiques, mais en outre que les sciences offrent un certain support à la reconnaissance de leur existence. Soit, par exemple, une théorie éthique affirmant que l'empathie fournit le fondement de la moralité. Cette thèse pourrait être soutenue par une recherche empirique sur le lien entre l'empathie et l'altruisme, même si la thèse éthique en dit assurément davantage. Comme celle du naturalisme faible, les versions modérées du naturalisme ne sont pas incompatibles avec la conception traditionnelle de la philosophie. Elles exigent seulement que la philosophie respecte les résultats et les méthodes des sciences et qu'elle soit informée par eux. Cela implique également que la connaissance, soi-disant a priori, puisse être réfutée par les données de la science. La distinction entre ces différentes versions de naturalisme va s'avérer utile dans la partie suivante, où je vais essayer de situer les idées de Musil dans l'espace métaphilosophique par rapport à la conception traditionnelle de la philosophie, à la philosophie comme littérature et au naturalisme philosophique. Deuxième partie, situation de la position métaphilosophique de Musil. L'exposé le plus explicite par Musil de ses conceptions sur la relation entre science, philosophie et littérature peut être trouvé dans un court fragment d'essai intitulé « La connaissance chez l'écrivain, esquisse », date de 1918. Il y distingue deux vastes domaines de connaissance, le ratioïde et le non-ratioïde. Le domaine ratioïde est caractérisé de la manière suivante, citation, « Ce domaine ratioïde englobe, délimité à grands traits, tout ce qui peut entrer dans un système scientifique, tout ce qui peut être résumé par des lois et des règles, donc avant tout la nature physique, mais la nature morale uniquement dans des rares cas de réussite. Ce domaine est caractérisé par une certaine monotonie des faits, la prédominance de la répétition, une relative indépendance des faits, l'un par rapport aux autres, tels qu'ils s'intègrent aussi d'ordinaire à des groupes de lois, des règles et des concepts antérieurement constitués, dans quelque ordre de succession qu'ils aient été découverts. Mais ce qui le caractérise surtout, c'est que les faits s'y laissent décrire à communiquer de façon univoque. » Fin de citation. Le terme moral dans ce passage doit être entendu dans un sens très large, semblable à l'usage qu'il y a chez Hume. Dans ce sens large, moral ne se réfère pas seulement à l'éthique, mais à toutes les questions traditionnellement considérées comme philosophiques, en particulier celles qui concernent l'esprit humain ou la nature sociale, mais aussi les problèmes métaphysiques ou épistémologiques. Ces problèmes appartiennent à un domaine pour lequel Musil forge le terme non-ratioïde. À l'occasion, il emploie aussi les termes Geist, esprit, ou Seele, âme. Les choses révèlées de ce domaine, relevant de ce domaine, ne sont pas des vérités nécessaires des généralisations ou des lois. Citation. Si le domaine ratioïde était celui de la règle avec exception, le domaine non-ratioïde est celui où les exceptions emportent sur la règle. Peut-être n'y a-t-il là qu'une différence de degré, mais quoi qu'il en soit, si capitale qu'elle nécessite un renversement complet de la position du sujet connaissant. Dans ce domaine, les faits ne sont pas dociles, les lois sont décribles, les événements ne se répètent pas, mais sont infiniment variable et individuel. Fin de citation. Il en résulte que le non-ratioïde ne peut pas être traité par la science. Mais bien qu'il ne puisse être saisi par des méthodes scientifiques, le non-ratioïde ne doit pas être identifié avec l'irrationnel. C'est précisément pour cette raison que Musil introduit le néologisme ratioïde versus non-ratioïde. Le non-ratioïde peut être soumis à des raisons et à des justifications, mais pas à la formalisation ni à la quantification. Le ratioïde et le non-ratioïde ne sont pas seulement deux domaines ou deux aspects du monde entièrement indépendants, ils ont l'un et l'autre une dignité ontologique et épistémologique qui leur est propre. L'essai de Musil, qui est au bout du compte une épistémologie pour le poète, débouche sur l'idée que la manière correcte de comprendre les phénomènes qui tombent dans les domaines non-ratioïdes est la littérature. La raison en est que le poète approche son sujet par le sentir, mais cela ne signifie pas qu'il doive se dispenser de la raison et de rationalité. comme Musil l'écrit dans l'Europe désemparée, citation, « Ne disons pas que nous avons trop d'entendement et trop peu d'âme. Disons que nous avons trop peu d'entendement dans les problèmes de l'âme. » Fin de citation. Les essais de Musil ont une fonction protreptique dans l'ancien sens du terme, qui inclut un appel à l'auditoire en faveur d'un mode de vie nouveau et différent. Ils sont supposés conduire à l'adoption d'une nouvelle manière de penser, l'attitude poétique. Comme Musil l'écrit dans un petit texte en l'honneur de l'écrivain Franz Blei, qu'il a rédigé à la même époque à peu près que la connaissance chez l'écrivain, citation, « articuler le sentiment au moyen de l'intellect, détourner l'intellect des problèmes insignifiants du savoir vers ceux du sentiment, tel est le but de l'essayiste. » Fin de citation. Pour Musil, la distinction entre science et poésie, ou plus exactement entre les points de vue scientifiques et poétique, n'est pas, comme chez Rorty, purement historique et contingente. Elle découpe la nature selon ses articulations. En conséquence, un poète ne doit pas être considéré comme quelqu'un qui est devenu écrivain à cause d'une certaine mentalité non sérieuse, incapable d'un raisonnement scientifique strict et d'abstraction. Une motivation que Musil considérait comme intellectuellement déficiente. Citation, « C'est la structure du monde, et non celle de sa nature propre, qui assigne à l'écrivain sa tâche, et selon laquelle il a une mission. » Fin de citation. Pour cette raison, il serait erroné de conclure que si Musil a mis fin à sa carrière philosophique et décidé de consacrer sa vie à la littérature, c'est parce que lui aurait manqué la rigueur dans la pensée. Comme Musil l'explique dans La connaissance chez l'écrivain, c'est la structure de base du monde, et elle seule, qui autorise deux sortes d'approches, l'une scientifique, l'autre poétique. Il n'y a donc plus guère de place laissée à la philosophie comme un domaine d'études propres, consacrées aux vérités abstraites et générales, devant être étudiées avec des méthodes strictes mais différentes de celles des sciences, comme le veut la conception traditionnelle de la philosophie. La conception de Musil, par conséquent, relève une forme de naturalisme philosophique. Au vu des catégories expliquées tout à l'heure, il n'y a pas dans le domaine rationnel d'autres genres de connaissances que dans la connaissance scientifique. S'il y avait une connaissance philosophique au sens de la conception traditionnelle de la philosophie, elle devrait appartenir au domaine rationnel. Étant donné que c'est un trait distinctif du naturalisme de rejeter la conception traditionnelle de la philosophie, Musil défend un naturalisme épistémologique fort. Cependant, il pense également qu'il existe un autre domaine que celui du rationnel. Par conséquent, Musil n'est pas un naturaliste ontologique fort. Il y a des choses qui ne peuvent être saisies par les sciences. Néanmoins, il serait erroné d'en conclure que Musil croyait au supernaturel. Il est pour le moins un naturaliste ontologique faible concernant les domaines non rationnels. Ceci est suggéré par la sévérité de ses critiques contre toute conception qui défend l'âme, le sentiment et autres choses semblables contre les sciences. Comme il l'affirme dans un essai de 1912, « Le spirituel, le modernisme et la métaphysique », citation, « Il n'existe pas forme de sentiment ni de forme différente de connaissance qui puisse opposer » à la connaissance scientifique sans maintenir. » Fin de citation. Même si les connaissances dans le domaine non rationnel échappent à la méthodologie scientifique, il ne leur est pas permis de contredire les sciences. Toutefois, concernant le domaine non racioïde, Musil n'adopte pas seulement un naturalisme épistémologique faible, mais modeste. Il ne veut pas uniquement éviter la contradiction avec les sciences, il essaie de soutenir ses conceptions aussi loin que possible à l'aide du raisonnement scientifique. Ceci est important pour le projet musilien, car sinon on pourrait se demander pourquoi on ne peut pas éviter l'affirmation qu'il y a un second royaume à côté du domaine racioïde et défendre un naturalisme fort, tout court. Musil essaye d'éviter cette objection en montrant que le domaine racioïde est, au bout du compte, non fondé ou, plus précisément, qu'il s'effondre dans le domaine non racioïde. Citation. En profondeur là aussi, les assises sont chancelantes. Les fondements premiers des mathématiques ne présentent pas de certitude logique. Les lois de la physique ne sont valables qu'approximativement et les astres se meuvent dans un système de coordonnées dont le lieu est nulle part. Fin de citation. Les phénomènes scientifiques auxquels il se réfère dans ce passage sont la crise des fondements en mathématiques, la physique quantique et la théorie de la relativité restreinte. De ces trois, c'est la crise des fondements des mathématiques qui est le défi le plus puissant pour le domaine racioïde car elle touche aux fondements de toute science. La crise des fondements a émergé au cours du XIXe siècle dans le sillage de certaines découvertes mathématiques de grande portée qui ont fondamentalement changé la nature de la discipline et l'attitude envers elle. L'une d'entre elles a été la découverte des géométries non euclidiennes qui a montré qu'il existe plus d'un système d'axiomes mathématiques possible. En conséquence, il semblait nécessaire de prouver qu'un système d'axiomes donné est exempt de toute contradiction, puisque ceci ne pouvait être fait avec les moyens mathématiques standards. La philosophie est entrée dans le débat. En fait, la crise des fondements des mathématiques fut davantage une crise philosophique qu'une crise mathématique. La stratégie à laquelle Musil a recours pour délimiter le domaine racioïde en invoquant la crise des fondements est subtile. Ce qu'il met prioritairement en question, ce ne sont pas les résultats des sciences, y compris ceux des mathématiques, mais la conception traditionnelle de la philosophie. Les raisons de Musil pour restreindre le domaine racioïde sont précisément les raisons auxquelles il a recours contre la philosophie comme champ d'études scientifiques véritables. Troisième partie, contre la conception traditionnelle de la philosophie. Le représentant du projet philosophique traditionnel dans L'homme sans qualité est le petit général Rondouillard Stumm von Bordwehr. Même s'il entreprend ce projet d'une manière très naïve, qui est ridiculisée. Mû par son amour pour la cuisine d'Ulrich Diotim, une version assez dégénérée d'enseignant socratique et de femme idéale selon Hölderlin. Il essaie de trouver l'idée supérieure qui pourrait guider l'action parallèle. Dans le cours de sa recherche, il essaie d'abord de parvenir à une vision systématique des idées qu'il rencontre dans ses lectures en appliquant des principes stratégiques et des schémas de représentation militaire. Cette approche n'est pas entièrement étrangère au caractère agonistique du débat philosophique, mais elle échoue, bien sûr, parce qu'elle ne repose pas sur la dynamique rationnelle du philosophe. Désespéré, Stumm se rend à la Bibliothèque nationale pour y trouver de l'aide. Il est à la recherche d'un système de connaissances universelles, hiérarchiquement structuré à partir d'un principe premier. Comme il le reconnaît de manière correcte, cette pensée lui est imposée par la logique, plus précisément par l'argument sceptique de la régression. Citation. Il semble évidemment qu'il y ait un grand nombre de pensées importantes, mais il faut bien finalement qu'il y en ait une plus importante que toutes les autres. La simple logique l'exige. Fin de citation. La recherche d'une idée qui soit la plus élevée a sa source dans le raisonnement lui-même, et elle, comme Kant l'a soutenu, est la légitimation du projet traditionnel de la philosophie. Citation. En effet, la raison humaine, sans y être portée par la simple vanité de beaucoup savoir, poussée par son propre besoin, continue irrésistiblement sa marche jusqu'à ce que ces questions, qui ne peuvent recevoir des réponses d'aucun usage de la raison dans l'expérience et des principes qui en émanent, et ainsi il y a eu réellement en tout temps chez tous les hommes, dès que la raison en eux s'étend jusqu'à la spéculation, une certaine métaphysique, et il y en aura toujours une. Fin de citation. Les branches extérieures de ce système de connaissances sont supposées atteindre la réalité concrète. Comme Stumm l'exprime dans sa manière typiquement naïve, citation, une éthique théologique, si vous voulez, mais il faudrait qu'il y ait dedans quelque chose sur la vieille culture autrichienne et sur Grillparzer. Fin de citation. La tentative la plus sophistiquée pour construire ce type de système philosophique est probablement la philosophie de Hegel. Stumm, toutefois, ne réussit pas à faire comprendre ce qu'il cherche au bibliothécaire et il est conduit dans la salle des catalogues afin de trouver par lui-même la littérature qu'il cherche. Dans cette salle, le bibliothécaire tire, pour lui, d'une étagère, la bibliographie des bibliographies. C'est bien sûr une référence au paradoxe de Russell, de l'ensemble de tous les ensembles qui ne sont pas membres d'eux-mêmes. Cette bibliographie est-elle un élément d'elle-même ou ne l'est-elle pas? Si elle n'est pas un élément d'elle-même, alors elle l'est. Mais si elle l'est, alors elle ne l'est pas. Russell a découvert vers 1901 ou 2 que ce paradoxe pouvait être déduit des fondements de l'arithmétique de Frege et qu'il est dévastateur pour le logiciste d'essayer de fournir les fondements des mathématiques. Comme l'exprime la maxime « ex falso quod libet », d'une contradiction on peut dériver n'importe quelle proposition et sa négation. Ceci conduit Russell au principe du cercle vicieux. Aucune totalité ne peut contenir des membres qui ne sont définissables que dans les termes de cette totalité ou des membres qui impliquent ou présupposent cette totalité. La bibliographie des bibliographies a une structure similaire. Puisqu'elle est elle-même une bibliographie, elle devrait se contenir elle-même. Si c'était le cas, elle contredirait le principe russellien du cercle vicieux. Une bibliographie des bibliographies est une construction dépourvue du sens. Pour être complète, elle doit se contenir elle-même. Mais au moment où elle est composée, elle n'est pas encore parue. Et donc, elle ne peut pas se contenir elle-même. En outre, supposons qu'il soit possible de surmonter ce problème et que nous tenions en main une bibliographie qui se contient elle-même comme entrée. Mais dans ce cas, cette bibliographie ne peut pas servir au but qui est le sien. Supposons qu'une bibliographie soit une partie d'un algorithme pour trouver des livres. L'algorithme fonctionne en gros de la manière suivante. Si vous cherchez de la littérature sur un certain sujet, consultez une bibliographie indiquant les livres sur ce sujet, choisissez un livre, puis allez au catalogue de la bibliothèque, voyez où ce livre est rangé, allez à l'étagère en question et prenez le livre. La bibliographie des bibliographies ne peut pas être employée dans un tel algorithme. si on utilise en le consultant le livre que précisément on cherche à trouver, ce livre, par hypothèse, ne serait jamais sur l'étagère où on devrait le trouver. Pour surmonter ce problème, il faut comprendre le fait qu'on est en train de se servir du livre que, précisément, on cherche. Il y a une analogie structurelle entre cette situation et le premier théorème d'incomplétude de Gödel. Ce premier théorème dit que pour tout système formel S qui est consistant et suffisamment riche, c'est-à-dire qui permet de dériver une quantité suffisamment grande d'arithmétique, il existe au moins une proposition arithmétique P qui ne peut être prouvée dans le système. Il en va de même pour sa négation non P. Néanmoins, la vérité de P peut être montrée de manière informelle à l'extérieur du système. La proposition en question est du type G, et G asserte que G ne peut être démontré dans S. Si G était démontrable dans le système, alors ce système contiendrait un théorème qui le contredit lui-même. Il serait inconsistant. Le second théorème d'incomplétude établit que si S est consistant, alors la consistance de S ne peut être démontrée au sein de lui-même. Le résultat du théorème d'incomplétude de Gödel est qu'il ne peut exister de système axiomatique dans lequel toutes les vérités mathématiques pourraient être démontrées. Les théorèmes d'incomplétude de Gödel ont été utilisés dans d'autres domaines que les mathématiques. Parmi ces autres usages, il y a, entre autres, l'argument fameux de Lucas et Penrose, qui est supposé démontrer que l'intelligence artificielle forte est impossible. La conclusion de cet argument est que les théorèmes de Gödel montrent qu'il y a des vérités arithmétiques qui ne peuvent être ratifiées que par l'esprit humain, et non par un quelconque programme de construction de démonstration qui serait mis en œuvre par une machine. En un mot, nos capacités arithmétiques ne sont pas seulement mécaniques. On peut risquer la conjecture que Musil a anticipé quelque chose de ce genre quand le général Stumpf compare la salle des catalogues avec un cerveau humain. De même que la vérité de G ne peut être démontrée mais seulement saisie intuitivement, il faut aller au-delà de l'usage algorithmique de la bibliographie de bibliographie pour comprendre le fait qu'on est en train d'utiliser le livre que précisément on cherche, alors qu'on est en face de l'étagère vide. Il faudrait entrer dans les détails pour savoir si l'argument de Lucas et Penrose est correct, mais celui-ci serait une manière claire d'argumenter en faveur de l'affirmation de Musil que le domaine racioïde s'effondre au bout du compte dans le domaine non racioïde. Et si on n'accepte pas l'argument de Lucas et Penrose, il existe encore une autre manière d'argumenter à partir de la crise des fondements en faveur du domaine non racioïde. Comme Lakatos l'a montré de façon convaincante, la crise des fondements des mathématiques doit être envisagée dans un contexte épistémologique plus large.
Combien de temps il me reste ? Théoriquement, vous l'avez déjà dépassé.
D'accord. Donc, je peux juste omettre ce passage et terminer avec la conclusion. il me manque un argument, mais quand même, je vais terminer. Le tour très particulier de la conception métaphilosophique de Musil, c'est qu'elle montre comment le raisonnement scientifique délimite l'étendue de la science elle-même. Ceci conduit à une figure de pensée un peu paradoxale. La thèse selon laquelle il existe un domaine non racioïde qui n'est accessible que dans la perspective de la poésie et non pas dans celle de la science, est soutenue par un raisonnement scientifique dans le contexte de la crise des fondements des mathématiques. Mouzil, par conséquent, soutient une version particulière de naturalisme modéré qui montre, par les moyens de la science, qu'il doit y avoir plus que la science. Toutefois, les arguments tirés de la crise des fondements des mathématiques sont un défi pour le projet philosophique traditionnel, bien plus que pour la science. Bien que la prétention de la science à l'exclusivité ontologique et épistémologique soit démolie, ce n'est pas vrai de la pratique scientifique. Mouzil ne remet pas en question l'idée que la science et les mathématiques sont des sources de connaissances fiables. Ceci le distingue d'autres défenseurs de l'idée que la science n'est pas la seule pratique viable et qui discrédite les résultats de la rationalité scientifique. Rorty, par exemple, estime que la science doit être considérée comme un secteur de la culture ni spécialement privilégié, ni spécialement intéressant. Un secteur qui, comme tous les autres, ne fait sens que quand on le regarde d'un point de vue historique. Mouzil, au contraire, considère la science comme une pratique de la plus haute importance et qui a une fonction exemplaire à cause de sa précision et de sa rigueur de pensée, ainsi qu'à cause de ses énormes succès dans l'explication et la manipulation du monde. Simplement, elle n'est pas la seule. Il y a une autre pratique, à savoir la littérature, qui n'est pas moins digne, mais qui concerne un aspect entièrement différent du monde. Son verdict sur la conception traditionnelle de la philosophie est plus sévère. Si la ligne de pensée que j'ai reconstruite dans la partie précédente est correcte, il n'y a pas d'espace pour la philosophie scientifique telle qu'elle est traditionnellement conçue. Il ne peut pas y avoir de système philosophique unifié de la connaissance qui soit en continuité avec les sciences, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace pour la philosophie au sens de la conception traditionnelle. Si on prend ceci pour une affirmation centrale du naturalisme épistémologique fort, Mouzil est un naturaliste épistémologique fort. Et il est même plus radical d'autres défenseurs de cette conception. Parce que les épistémologistes naturalistes forts comme Quine, Cornbluth ou à l'époque de Mouzil, Ernst Mach, défendent leur position avec des arguments qui sont plus ou moins des arguments philosophiques standards. Ils ont pour cette raison été souvent critiqués comme inconsistants, parce que leur position est une conception authentiquement philosophique, non scientifique. Mouzil a lui-même lancé cette objection contre le naturalisme épistémologique fort d'Ernst Mach dans sa thèse de doctorat. Sa propre conception peut éviter l'objection adressée à Mach et aux autres versions du naturalisme fort en implémentant son programme naturaliste dans une démarche littéraire combinée avec une référence à l'argumentation scientifique standard, puisque la littérature et la science sont, selon sa conception, l'une et l'autre, des ressources parfaitement légitimes. Mouzil, par conséquent, occupe une position remarquable dans l'espace métaphilosophique entre le naturalisme philosophique et la philosophie comme littérature. Il défend une version de naturalisme philosophique qui ne tombe pas sous l'objection d'inconsistance, et dans le même temps, il défend une version de la philosophie comme littérature qui n'est pas payée au prix du dénigrement de la science. Mais, comme la plupart des bonnes choses dans la vie, cette conception attirante a un coût. Ce coût est une restriction des prétentions à la connaissance, non pas tant des sciences que de la philosophie, du moins telle qu'elle est traditionnellement conçue. Merci à tous.
Merci beaucoup, Catherine. Je suis désolée qu'on n'ait pas pu entendre le même tout. On est obligé de tenir les... Donc je vais demander à Jacques de nous rejoindre, peut-être pour commencer simplement à donner son appréciation de ce bel exposé, et puis nous aurons le temps pour quelques questions. Je dis tout de suite que je conçois aisément toutes les frustrations qu'il peut déjà y avoir à la fin de cette matinée. J'indique que nous aurons une discussion générale qui nous permettra, je pense, d'éviter trop de frustrations. Donc je le dis parce que déjà, moi, je me sens extrêmement frustrée de la rapidité avec laquelle nous sommes obligés de passer, n'est-ce pas, d'un exposé aux autres. Donc je donne d'abord la parole à Jacques et ensuite, bien entendu, on ouvre la discussion. Jacques, je t'en prie.
Je vais être à nouveau, enfin essayer en tout cas d'être très bref, alors que j'éprouverai la tentation d'être très long, parce que j'ai l'impression d'avoir entendu un exposé réellement passionnant et particulièrement riche, dont j'ai appris énormément, ce qui signifie qu'on a toujours des occasions d'apprendre, même sur un auteur qu'on croit connaître relativement bien, et même peut-être dans mon cas, si je peux me permettre de dire ça, particulièrement bien. Alors, il y a tout de même quelques perplexités qui subsistent dans mon esprit. Alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait que, comme vous l'avez dit en conclusion, la solution que propose Mozill a un certain prix, en particulier celui qui consiste dans le fait qu'il est, il est difficile de conserver à la philosophie la position d'une discipline cognitive au sens plein et fort du terme. Et en outre, je me demande si... on n'a pas la même difficulté avec la philosophie, hein, avec la littérature, pardon. C'est-à-dire si la question ne se pose pas de la même manière pour la littérature. C'est-à-dire est-ce qu'il y a cette question qui subsiste, qui est une question qui, comme vous le savez, me concerne directement et m'a intéressé au plus haut point. C'est-à-dire est-ce que oui ou non, on veut parler légitimement d'une connaissance qui mériterait d'être appelée littéraire, avec en plus le risque qu'il y ait non pas une connaissance littéraire en général, mais plusieurs type de connaissances littéraires, par exemple une connaissance romanesque, une connaissance poétique, et pas certain que la réponse soit exactement la même pour le roman, qui est évidemment ce qui a intéressé en priorité Mozill, et pour la poésie. Alors il y a cette difficulté, qu'en est-il de la connaissance littéraire, si tant est qu'il puisse y avoir une connaissance littéraire. Et là-dessus, on a l'impression que la réaction de Mozill est un peu ambiguë, hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il a l'air de dire que il y a bel et bien une connaissance littéraire, et puis d'autres où il dit simplement la littérature utilise des connaissances de nature diverse, y compris des connaissances empruntées aux sciences exactes, mais il n'est pas une forme de connaissance. Et puis enfin, il y a une petite chose aussi qui m'a un peu intrigué, c'est vous avez dit à au moins deux reprises que la découverte que fait Mozill est qu'au fond, le ratioïde doit se fonder dans le non-ratioïde. Alors, est-ce que le fait que le ratioïde doive se fonder dans le non-ratioïde ne signifierait pas plutôt qu'en ce qui le concerne, il faut accepter l'idée d'une certaine absence de fondement, c'est-à-dire une absence de fondement plutôt que l'obligation de chercher un fondement. C'est-à-dire, je crois que la position que défend Mozill, ce que je veux dire, c'est que au lieu de chercher un fondement, il défend plutôt une position qui est fondamentalement anti-fondationaliste, c'est-à-dire qui se rapprochait plutôt de quelque chose comme peut-être l'idée de la science sur pilotis au sens de Popper, enfin, vous voyez, plutôt que de continuer à raisonner en fonction de cette obsession de la recherche du fondement qui serait en mesure de nous rassurer une fois pour toutes, notamment sur le problème de... Enfin, à propos de... dans le cas de ce qu'on appelait la crise des mathématiques, qui n'a pas l'air de constituer pour lui quelque chose de véritablement dramatique. Il ne donne à aucun moment l'impression d'être particulièrement tourmenté par ce qu'on appelle cette soudaine apparence de fondement qui se manifeste, d'une absence de fondement qui se manifeste dans les mathématiques. Enfin, ça fait beaucoup de questions.
Oui, oui. En fait, disons, j'ai peut-être identifié deux questions centrales, et la première était... la connaissance, à part de la littérature, ne pose pas aussi des problèmes. Et moi, je crois, j'ai mis l'emphase sur le fondement du ratioïde dans le non-ratioïde, mais il y a aussi la relation, disons, dans l'autre direction, parce que je crois aussi que... la possibilité de la connaissance dans le domaine non-ratioïde doit être établi avec les moyens scientifiques. Pour ça, j'ai dit qu'il est quand même un naturaliste modéré épistémologique, c'est-à-dire bon, le moyen de connaissance dans le nom racioïde, c'est le sentiment, et de manière scientifique, on peut analyser qu'est-ce que c'est le sentiment et pourquoi ça peut ouvrir accès au monde, je crois. Et en même temps, il utilise le racioïde comme mécanisme critique. Pour, par exemple, il y a les caractères de Clarisse de Mosbrugger qui sont tout près au domaine non racioïde, mais qui sont quand même pathologiques. Et je crois que donc on peut critiquer avec des moyens racioïdes cette déformation du non racioïde. Mais quand même, disons, on peut seulement décrire ou poursuivre le chemin du non racioïde, mais pas le contenu ou les connaissances que apporte le non-racioïde et le sentiment. Mais quand même, je trouve que ça, c'est le mécanisme que les deux domaines supportent, disons, l'un et l'autre.
Oui,
et pour ça, mais quand même, si on est satisfait de cette idée, je crois que aussi ça vit beaucoup d'un sentiment d'évidence qu'on a dans le non-racioïde. Mais bien sûr, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on peut le confier, ce sentiment. Et je crois que le support racioïde, pour Mousse, il doit montrer pourquoi c'est légitime et les cas dans lesquels ce n'est pas légitime. Bien que c'est aussi, ça reste un correctif, mais extérieur dans un sens. Mais quand même, donc ça serait la stratégie dont j'ai seulement écrit l'une, donc que le racioïde, disons, a les fondements dans le non-racioïde. Donc, l'autre question. Est-ce qu'il est fondamentalement anti-fondamentaliste? C'est une très bonne question. Et longtemps, et je pense que c'est aussi beaucoup de la littérature qui dit ça sur Mousil, que Mousil était pragmatiste, finalement. Et c'est-à-dire que, bon, les sciences n'ont pas mesuré par la vérité qu'il peuvent, disons, chercher ou ouvrir, mais par l'utilisation pratique. Et comme je ne suis pas pragmatiste, j'ai toujours pensé que c'est un peu ennuyant. Ça ne me plaît pas du tout. Donc, j'ai cherché des interprétations plus réalistes. Et je crois que j'en ai trouvé une, bien que je sais aussi les passages pragmatistes et que j'ai peut-être un peu mais c'est comme dans tous les grands auteurs qui permettent plusieurs interprétations. Et donc, je crois qu'il n'est pas antifondamentaliste. Dans un sens, il est antifondamentaliste parce qu'il pense que le projet traditionnel qui dépend beaucoup à la régression sceptique et à réfuter la régression, je pense qu'il est vraiment de l'opinion que ça ne pose pas de problème ou ce n'est pas le problème principal. Mais quand même, il y a un fondement, disons, intuitif, comme c'est le cas avec le Gödel. C'est quelque chose qu'on ne peut pas, au moins avec des moyens formels, déduire. Mais quand même, on peut comprendre que cette phrase est vraie. Et pour ça, on voit aussi pourquoi ce n'est pas si problématique, parce que là, on a l'impression que c'est la mathématique, il n'y a pas grand problème. Eh bien, la mathématique marche, même, disons, bien qu'on n'a pas résolu la crise fondamentale. Il y a des manières pratiques, comme les mathématiciens peuvent conduire leurs recherches. Et là, je crois que mon interprétation serait que il est antifondamentaliste, mais pas dans le sens pragmatiste, mais dans le sens qu'il n'y a pas de fondament, disons, strict philosophique.
Merci.
Merci infiniment. Je crains fort que nous n'ayons l'obligation de terminer cette matinée. Je le regrette pour ceux qui avaient évidemment des questions à poser à Catherine sur son superbe exposé. Je voudrais la remercier chaleureusement. Thank you.